Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian et je suis content de vous retrouver. Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique. Le royaume des cieux, selon l'évangile de Matthieu. Voici le thème actuel de nos émissions. Et lors de cette quatrième série consacrée à ce thème, nous nous penchons sur le sujet de la mission et du royaume des cieux. Colline est de retour parmi nous. Il nous aidera à mieux comprendre ce sujet. Colline, bonjour.
Merci Ian, et bonjour à tous. Nous allons considérer pour la troisième fois les dernières paroles de Jésus que nous trouvons dans l'évangile de Matthieu. Écoutons donc au chapitre 28, les versets 16 à 20.
Les 11 disciples se rendirent en Galilée, sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent. Quelques-uns cependant eurent des doutes. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier. Faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour, jusqu'à la fin du monde. »
Merci. La dernière fois, nous avons parlé du fait que Jésus appelle ses disciples à former d'autres disciples. Un disciple de Jésus est une personne qui s'engage à le suivre. Suivre Jésus, c'est désirer apprendre de lui, mais c'est aussi s'appliquer sérieusement à mettre son enseignement en pratique. Un disciple reconnaît que Jésus est roi et il cherche à mener sa vie à la lumière de cette grande vérité.
Merci Colin pour ce petit résumé. Aujourd'hui, nous abordons la phrase suivante. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons donc parler du baptême.
C'est exact, Ian. Certaines personnes trouvent peut-être étrange que l'appel à baptiser les croyants se trouve au cœur de paroles qui annoncent la mission que Jésus a confiée à ses disciples. Toutefois, je tiens à préciser que si le baptême est ici mentionné, c'est qu'il s'agit d'une invitation importante à laquelle nous devons tous prêter attention.
Malheureusement, à travers les siècles et encore de nos jours, le baptême est devenu un sujet de controverse parmi les églises, un sujet qui peut diviser.
Oui, c'est une triste réalité. Nous allons survoler certaines de ces controverses aujourd'hui, mais nous n'aurons pas le temps de les approfondir. Je vais vous faire part de mes convictions concernant le baptême, tout en respectant le fait que d'autres peuvent avoir des opinions différentes.
Merci. Et par où voulez-vous commencer?
Je voudrais d'abord répondre à la question suivante. D'après les paroles de Jésus dans le texte biblique que nous venons de lire, qui faut-il baptiser?
Et quelle est votre réponse à cette question?
Si nous suivons le raisonnement de Jésus, il faut baptiser ceux et celles qui deviennent ses disciples à la suite de la proclamation de la bonne nouvelle. L'exhortation « Faites de toutes les nations des disciples » précède la phrase « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Autrement dit, il y a des étapes à suivre. D'abord, on devient disciple de Jésus-Christ, et c'est plus tard que l'on passe par le baptême. Cet ordre, qui me paraît tout à fait logique et raisonnable, semble exclure deux approches du baptême qui sont assez répandues de nos jours.
Ah bon, lesquelles?
Si, selon Jésus, il faut baptiser ceux et celles qui sont devenus ses disciples, il me semble juste de conclure que nous ne devons pas baptiser celles et ceux qui ne le sont pas. Ce raisonnement exclut alors le baptême des nouveau-nés et des très jeunes enfants, car ils n'ont ni la capacité ni la maturité de faire un tel choix, celui de devenir un disciple de Jésus. Ensuite, si le baptême est réservé aux personnes qui sont déjà disciples de Jésus, je conclus que ce n'est pas le baptême lui-même qui fait d'une personne un disciple. Et ce n'est pas le baptême qui fait d'un individu un véritable chrétien. Ce n'est pas le baptême qui accorde le salut. Non. Un disciple, le chrétien, est une personne qui, par une démarche sincère de foi et de repentance, reconnaît que Jésus est son maître. Il appartient au royaume des cieux et reçoit le salut par son attachement à Jésus, son roi. Ce sont ces personnes-là qu'il faut baptiser.
Merci. Mais si le baptême ne rend personne chrétien, s'il n'accorde pas le salut, Pourquoi est-il si important, voire nécessaire?
Je voudrais expliquer cela en prenant le mariage comme illustration. De nos jours, la plupart du temps, lorsqu'un jeune homme et une jeune femme se marient, ils se connaissent déjà et s'aiment depuis un certain temps. De ce fait, ils décident de passer par une cérémonie de mariage. Et par cette cérémonie, la relation existante liant ce couple se concrétise et s'approfondit. On assiste à un échange de vœux par lequel la mariée et le marié s'engagent l'un envers l'autre, notamment par des promesses de fidélité. C'est par le mariage que l'union du couple se réalise pleinement. De plus, c'est par la cérémonie du mariage que le mari et la femme déclarent publiquement qu'ils forment un couple. De la même manière, le baptême est une cérémonie par laquelle un croyant, c'est-à-dire une personne qui s'est détournée de ses péchés pour mettre sa foi en Jésus, déclare publiquement sa foi en lui et la relation intime et privilégiée qu'il vit avec Dieu. On peut aussi dire que l'acte et la signification du baptême représentent en quelque sorte des engagements de fidélité qui lient Dieu et le croyant pour l'éternité. Par le baptême, le croyant exprime son allégeance et sa loyauté envers Jésus son roi, et il proclame publiquement que Jésus est un maître fidèle, bon et miséricordieux qui sera avec lui tous les jours de sa vie, jusqu'à la fin du monde. Tout comme le déclarent les dernières paroles de l'évangile de Matthieu.
Merci. Vos propos nous aident à comprendre toute l'importance du baptême. Nous savons que la façon dont le baptême est pratiqué peut aussi varier d'une église à l'autre. Certaines vont immerger entièrement le candidat sous l'eau, alors que d'autres aspergent tout simplement le front de la personne avec un peu d'eau. Mettons de côté ces différences pendant un instant. Quelle est la signification de cette cérémonie?
On peut dire que le baptême est comme une parabole vivante, une illustration de vérité spirituelle profonde. D'abord, bibliquement, l'eau est une illustration de la purification. De ce fait, le baptême est un rappel que Jésus-Christ nous purifie de toutes nos impuretés spirituelles et morales. Autrement dit, Jésus pardonne tous nos péchés. Tout à l'heure, j'ai fait remarquer que le baptême représente un échange de vœux ou de promesses. Nous pouvons dire que le baptême rappelle le fait qu'en Jésus-Christ, Dieu s'engage à nous pardonner nos fautes. Il s'engage aussi à nous donner le Saint-Esprit. Et de son côté, à travers le baptême, le croyant affiche sa loyauté envers Jésus, son roi, et il s'engage à lui être fidèle. Ensuite, selon l'apôtre Paul, le baptême est une image d'un passage de la mort à la vie. Le baptême est une parabole vivante qui rappelle que le croyant participe à la mort et à la résurrection de Jésus. Descendre dans les eaux du baptême et y être immergé est une illustration du fait qu'en Jésus-Christ, nous quittons notre ancienne manière de vivre. Nous nous détournons du péché et nos péchés sont pardonnés. Puis, l'acte de sortir de l'eau est une illustration que nous marchons dorénavant en nouveauté de vie, une vie vécue en communion avec Dieu et remplie de son esprit.
Merci, je constate à travers ces remarques relativement brèves que le baptême est riche en signification.
C'est vrai, et c'est pour cette raison-là qu'il représente une étape importante, normalement entreprise vers le début de la vie chrétienne. Choisir de se faire baptiser est une décision sérieuse. Il ne faut pas la prendre sans bien y réfléchir. Et il est bon que les responsables d'église s'assurent que tout candidat au baptême comprend les bases de la foi chrétienne et qu'il est sincère dans sa démarche.
Merci, Colin. Avant de conclure notre entretien, je voudrais évoquer un autre sujet. Jésus déclare qu'il faut baptiser tout disciple au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que pouvons-nous dire sur cette formulation?
D'abord, il est vrai que de telles paroles sont assez extraordinaires, car, si je ne me trompe, c'est la première fois dans le Nouveau Testament que la doctrine de la Trinité est si clairement évoquée.
Quelle est donc la doctrine de la Trinité?
C'est affirmer qu'il y a un seul Dieu, mais que ce Dieu unique existe en trois personnes, appelées le Père, le Fils, autrement dit Jésus, et le Saint-Esprit. Il s'agit d'un mystère que nous avons du mal à saisir. Toutefois, nous affirmons que Dieu est le Père, de même que Jésus-Christ est Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous, Dieu fait homme, puis également que le Saint-Esprit est Dieu. Il est avec nous et il est en nous. Il faut être clair, ces trois personnes forment un Dieu unique et non plusieurs. On trouve déjà dans l'Ancien Testament quelques indices attestant de la doctrine de la Trinité. Par exemple, au Genèse, chapitre 1er, le seul et unique Dieu parle pour déclarer « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance ». Le seul et unique Dieu s'exprime comme s'il existait en plusieurs personnes. Il utilise les verbes à la forme plurielle. C'est seulement avec la venue de Jésus et la composition du Nouveau Testament que cette doctrine est mieux élaborée. Il est important de reconnaître que Jésus lui-même a formulé ces paroles « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Car après tout, s'il est lui-même le Fils de Dieu, il est le mieux placé pour le faire.
Merci. Mais Jésus prononce ces paroles pour la première fois en parlant du baptême. Pourquoi?
C'est pour affirmer que, par le baptême, nous appartenons au Dieu entier et non seulement à Jésus-Christ. Le baptême exprime notre appartenance à Dieu le Père. Il rappelle que notre nouvelle vie consiste à connaître le Père et à vivre dans une relation personnelle avec lui. Le baptême témoigne aussi notre appartenance à Dieu le Fils, c'est-à-dire à Jésus, notre roi. Il rappelle que notre nouvelle vie consiste à le connaître et à vivre dans une relation personnelle avec lui. Et le baptême exprime également notre appartenance à Dieu le Saint-Esprit. Il rappelle que notre nouvelle vie consiste à le connaître et vivre dans une relation personnelle avec lui aussi. Nous appartenons donc au Dieu trinitaire et nous sommes appelés à vivre une relation riche, intime et profonde avec ces trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quel privilège et quelle joie!
Merci, Colin. La prochaine fois, nous poursuivrons nos réflexions sur ces versets et examinerons les dernières paroles. Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit.
C'est exact, Ian. En attendant de vous retrouver tous, je vous dis au revoir et à bientôt.
À présent, je vais conclure notre émission avec une courte prière. Seigneur Jésus, nous te remercions pour toutes les merveilleuses vérités que le baptême nous rappelle. Nous te remercions pour le pardon de nos péchés. Nous te remercions parce que nous marchons en nouveauté de vie. Nous te remercions parce que nous appartenons à un Dieu d'amour et que nous connaissons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Seigneur Jésus, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans nos cœurs et dans nos vies, comme au ciel. Au nom de Jésus, amen. Je vous encourage à revenir nous écouter pour en apprendre davantage sur la mission que Jésus confie à l'Église. En attendant de vous retrouver, je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse.